BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où on est tous, chacun, certains, de passer le restant de nos jours. Et les blockchains, les cryptos peut-être aussi, contiennent une fraction de l'avenir. On leur consacre donc un rendez-vous plein et entier chaque vendredi aux alentours de 16h35. Ils sont là, nos pros des cryptos, fidèles au rendez-vous. Claire Balva, bonjour Claire. Vous êtes experte crypto indépendante, vous nous rejoignez en plateau chaque semaine. Owen Simonin avec nous également. Bonjour Owen, ravi de vous retrouver. Votre chaîne Bonjour. YouTube, Asher, vous êtes également Owen à la tête de Meria. Et puis Xavier Fenot aussi nous accompagne, il a le sourire Xavier avec ce Bitcoin toujours au-dessus des 30 000 dollars aujourd'hui. Xavier Fenot depuis Interactive Trading, bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume, bonjour à Claire et à Owen.
On a pris quoi Xavier depuis le début de l'année? On a pris 80% sur le Bitcoin qui a donc repassé la barre des 30 000 dollars. Il retrouve ses niveaux de juin 2022 et donc plus de 80% de hausse depuis le 1er janvier. Est-ce qu'on n'est pas en surchauffe franchement?
C'est vrai, Guillaume, vous parliez du luxe juste avant dans le secteur justement du CAC 40. La question peut aussi se poser sur le Bitcoin. On a gravi quand même plusieurs cols successivement. Et le dernier, c'était celui des 28 500 dollars dont on parlait depuis des semaines. C'était pas une mince affaire. Alors le Bitcoin, c'est le grand gagnant de ces dernières semaines, le plus fort avec d'ailleurs une dominance, c'est-à-dire un poids sur le marché qui est passé d'un plus bas en fin d'année dernière sous 40% à 49% ces derniers jours. C'est un plus haut qu'on avait atteint l'été 2022 et un plus haut aussi qu'on avait atteint l'été 2021. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en surchauffe sur le Bitcoin? Si je regarde l'indice Fear and Greed Index, qui mesure le sentiment des investisseurs, c'est pas le cas. On n'est pas en euphorie extrême. Si on regarde la tendance avec l'aspect technique, et ça je le répète depuis des semaines, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse pour le moment. Et surtout, je le disais juste avant, on vient de s'extraire par le haut de 3 semaines de consolidation horizontale, donc c'est toujours positif. Alors après la question, est-ce que c'est le moment d'acheter maintenant parce que c'était plus dangereux d'acheter du Bitcoin à 16 000 qu'à 20 000 qu'à 25 000 et que maintenant il y a moins de risques? La réponse est non. Alors il y a certes une détente de manière générale, vous en avez parlé juste avant, on est sur les marchés traditionnels, secteur bancaire, taux d'intérêt. On a eu d'ailleurs cette semaine des chiffres d'inflation aux États-Unis meilleurs que ce qu'on attendait. Donc tous les voyants sont verts, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'euphorie. Donc mon point de vue, même si je suis le premier à dire qu'il n'y a pas d'alerte baissière, bien au contraire, c'est que le potentiel à court terme maintenant à 30 800 dollars sur le Bitcoin, le potentiel semble quand même en grande partie consommé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les investisseurs se tournent ces derniers jours plutôt et de plus en plus vers des alternatives comme sur les altcoins.
Et effectivement, alors on parlera dans un instant avec Owen et Claire de la mise à jour d'Ethereum réussie cette semaine, mais sur les altcoins parmi lesquels effectivement l'Ether, est-ce que vous estimez que la dynamique est la même, le potentiel peut être aussi important, voire plus que sur Bitcoin pour la suite?
Alors justement, oui, vous faites bien poser la question parce que nous étions dans ce qu'on appelle une Bitcoin season, c'est-à-dire 80% de hausse pour le Bitcoin depuis le début de l'année, vous l'avez dit, on passe de 16 000 à plus de 30 000 dollars aujourd'hui. On avait même un Ether, donc le numéro 2 du marché des cryptos, qui avait du mal à suivre la progression du numéro 1 Bitcoin. Et c'est en train de changer, justement. L'Ether, depuis 3 jours, est en train de surperformer Bitcoin, 15% en 3 jours, il passe les 2100 dollars. Et les altcoins, depuis des semaines, qui étaient en phase de latéralisation horizontale, pour ne pas dire léthargie, sont en train de se réveiller, à l'image, par exemple, de Solana, qui gagne presque 30% en 4 jours. Et je pourrais en citer des dizaines comme ça, qui prennent plus de 10%. Avec, plus largement, si je prends le top 50 des plus grosses cryptos, il y en a de plus en plus qui font mieux que le Bitcoin en un mois. Elles sont donc en train de rattraper leur retard. Donc, très simplement, pour répondre à vos deux questions, on pourrait bien être effectivement en phase de surchauffe sur le Bitcoin si on en croit notamment son niveau de dominance. Ça ne veut pas dire que la hausse est finie, mais que le potentiel sur les cours actuels semble limité. Ce qui se caractérise aujourd'hui par une dynamique des altcoins qui rattrape leur retard et nous offre donc quelques opportunités. Et ça, Guillaume, ça fait quand même plaisir de retrouver l'activité à court terme.
C'est sûr.
Mais comme toujours, restons rigoureux pour ne pas tomber quand même dans le piège de l'euphorie.
Xavier Fenot, Interactive Trading, et on rappelle à chacun d'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est très volatile, spéculatif, et les choses peuvent se retourner extrêmement vite. On en disait un mot à l'instant avec Xavier, c'est quand même l'un des événements de la semaine sur l'écosystème Ethereum, sur la blockchain Ethereum, cette mise à jour réussie. Chapella, c'est le nom de cette mise à jour, c'est ça Claire? Chapella, bon. Shanghai, voilà, c'est ça. Comment ?
C'est Chapella, c'est une contraction de deux.
Ah, voilà, parce que ça faisait des semaines qu'on parlait de Shanghai, puis je vois que ça s'appelle Chapella, je vois de plus d'intervenants nous dire Chapella. En fait, c'est Shanghai, mais c'est Chapella, c'est une contraction de plusieurs choses.
Exactement.
Très bien, parfait, c'est clair comme ça pour moi et peut-être pour certains de nos auditeurs et téléspectateurs. Et donc, cette mise à jour a réussi, elle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Owen, comment s'est-elle passée et surtout, quels ont été les impacts, quelles sont les conséquences du succès de cette mise à jour désormais?
Alors, il y a eu une hausse du cours de l'Ether, alors que beaucoup de gens se positionnaient à la baisse suite à cette mise à jour. Faut comprendre pourquoi. Par définition, cette mise à jour va permettre techniquement de libérer les Ethers que les investisseurs ont stakés sur le réseau depuis décembre 2020, mais également de récupérer les rewards, donc les récompenses qu'ils ont accumulées en bloquant ces Ethers depuis plus de 2 ans sur le réseau. Donc naturellement, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait une pression à la vente, qu'il y ait beaucoup de gens qui retirent des Ethers, les vendent, et donc naturellement un prix de l'Ether qui pèse. Mais c'était sans compter sur des contre-positions, comme par exemple le fait que la plupart des gens avaient bloqué leurs Ethers quand le prix était bien supérieur au prix d'aujourd'hui. Comme le fait que la plupart des gens avaient bloqué leurs Ethers via des protocoles de liquid staking qui leur permettaient déjà en fait de revendre leurs Ethers et qui n'étaient pas bloqués finalement depuis quelques années. Et donc au contraire, pour beaucoup, cette mise à jour qui permettait de retirer les Ethers a apporté de la visibilité. Eh bien oui, parce qu'en décembre 2020, quand on bloquait ces Ethers, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait les récupérer. Et le manque de visibilité empêche les investisseurs de définir une stratégie. Et naturellement, maintenant qu'ils ont de la visibilité et maintenant que les gens savent quand est-ce qu'ils peuvent récupérer leurs Ethers en stacking, on s'est rendu compte que depuis la mise à jour, il y a même eu plus de nouveaux dépôts que de retraits. Le prix de l'Ether est parti à la hausse et a enregistré un peu plus de 200 dollars par unité depuis que la mise à jour a été correctement effectuée. Elle s'est même terminée, comme à son habitude, par un petit live sur les réseaux sociaux où les développeurs d'Ethereum ont fait une chanson à la guitare, carrément.
Ah, carrément. Bon, et sans fausse note, on l'espère. Tout le monde s'attend désormais aux prochaines interventions sur cette blockchain Ethereum. On sait ce qui se prépare, ce qui se mijote désormais, Claire ?
Alors, la grande priorité sur le réseau Ethereum, ça va être ce qu'on appelle la scalabilité, donc le passage à l'échelle. Vous savez qu'Ethereum, comme la plupart des blockchains, s'est à certains moments retrouvé engorgé parce qu'il y avait trop de transactions par rapport au débit possible sur le réseau. Et donc, les frais de transaction, à ces moments-là, augmentaient. C'est notamment le cas dans les bullruns, donc toutes ces périodes où les cours augmentent et où il y a beaucoup de transactions sur les réseaux. Donc là, le gros enjeu, bien sûr, c'est de se dire, l'année prochaine, on va peut-être avoir un nouveau bullrun. Et donc, l'enjeu pour Ethereum, c'est de devenir scalable, donc de pouvoir absorber beaucoup plus de transactions avant le nouveau bullrun. Sinon, on risque de se retrouver encore avec des frais de transaction qui peuvent dépasser les 100 dollars. Donc, le véritable enjeu, c'est ça, c'est ce passage à l'échelle. Et on voit certaines améliorations arriver. Alors déjà, il y a eu tout le travail ces dernières années sur les Layer 2, donc ces surcouches qui fonctionnent par-dessus Ethereum. On pense à Arbitrum, à Optimism, dont on a déjà parlé sur ce plateau. Mais là, sur la chaîne principale, ce qui devrait arriver début 2024, c'est une amélioration qui s'appelle EIP 4844, qui, alors je le simplifie grossièrement, va permettre de minimiser la taille, la donnée liée aux transactions et donc de permettre un meilleur fonctionnement de ces fameuses surcouches. Alors, je dis début 2024, mais encore une fois, c'est le conditionnel, puisqu'avec Ethereum, on sait que les roadmaps sont toujours un peu flexibles. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de suivre ce rythme aussi des innovations pour voir non seulement si Ethereum passe à l'échelle, mais aussi pour voir si Ethereum a vocation à finalement toujours faire des mises à jour une fois, deux fois par an, ou si on va s'orienter vers un protocole qui va quand même se stabiliser. On voit par exemple que sur Bitcoin, il y a quand même beaucoup moins de mises à jour que sur Ethereum. Et donc, est-ce qu'Ethereum a vocation à toujours avoir des mises à jour régulières ou est-ce que ça va petit à petit saucifier pour arriver à quelque chose de plus stable?
Alors, on va parler des autres bonnes nouvelles puisque cette mise à jour a été un succès. On va en parler des autres bonnes nouvelles dans un instant. Mais d'abord, l'instant hack de BFM Business. Oui, les hacks informatiques ont leur rendez-vous sur cette antenne dans les pros des cryptos. On en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup des hacks dans l'univers du Web3. L'instant hack de la semaine, c'est SushiSwap. SushiSwap. Le hack de SushiSwap a bien fait jaser cette semaine, Claire.
Oui, on parle d'un hack d'un peu plus de 3 millions de dollars. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hein. C'est évidemment beaucoup dans l'absolu et surtout pour les personnes qui en ont été victimes. C'est pas forcément énorme quand on regarde la taille de SushiSwap, puisque SushiSwap, c'est quand même plusieurs millions de dollars de valeur totale bloquée dans le protocole. Et donc, c'est plus de 3 millions de dollars ont été hackés. Alors, c'est une faille qui est liée à une fonctionnalité d'approbation. C'est en gros une fonctionnalité qui vous permet de déléguer, d'accorder des autorisations à des tiers pour qu'ils puissent transférer vos jetons. Donc c'est une fonctionnalité qui est très pratique, mais qui ouvre la voie à certaines attaques, ce qui a été le cas ici. Et donc dans ce hack, on a eu évidemment des hackers mal intentionnés, mais aussi comme souvent des white hats, donc des hackers mieux intentionnés qui ont hacké les fonds, mais dans un but louable, c'est-à-dire oui, de les mettre en sécurité pour éviter que les hackers mal intentionnés les prennent. Et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est des procédures de récupération des fonds. Alors, si vos fonds ont été volés par un white hat, vous allez avoir une procédure automatisée, un smart contract pour récupérer vos fonds. Et puis, si vos fonds ont été dérobés par, pour le coup, les hackers moins bien intentionnés, il va y avoir une réclamation à faire à SushiSwap qui s'est engagée à rembourser, à compenser la perte des fonds.
Et puis, il y a eu un autre hack récemment. Il concernait cette fois AAV et Yearn. Alors, ce qui est dingue, c'est que la faille par laquelle ce hack a pu avoir lieu, cette faille, cette vulnérabilité existait depuis déjà près de 1000 jours, depuis à peu près 3 ans. Mais c'est maintenant qu'a lieu le hack. Comment s'est passé ce hack, Owen? Pourquoi maintenant? Et qui, finalement, en a subi les frais?
Les utilisateurs qui en ont subi les frais sont les utilisateurs qui avaient laissé leurs fonds sur une toute première version d'un des protocoles Yearn, en l'occurrence, puisque c'est une faille d'un smart contract qui était immuable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été émis, on ne peut plus le modifier. Et c'est très rare parce que c'est un smart contract qui date d'il y a plus de 3 ans. Ce qui veut donc dire que non seulement si quelqu'un avait trouvé cette faille il y a 3 ans, il y aurait eu beaucoup plus de liquidité, aujourd'hui, parce que les utilisateurs se devaient de partir vers des pools et des smart contracts qui étaient plus à jour. Et il y a un petit fun fact dans ce hack, c'est que pour maximiser son hack et pour obtenir un maximum de fonds possible, je vais vulgariser évidemment, mais l'utilisateur a été, le hacker, pardon, a été dans l'obligation de rembourser toutes les dettes et de couvrir toutes les dettes que les utilisateurs avaient sur la toute première version d'un autre protocole qui s'appelle AAV et qui est bien connu puisque c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Et donc, les gens qui avaient des dettes parce qu'ils avaient généré des emprunts sur le protocole version 1 d'AAV se sont vus tout simplement leurs dettes épongées dans la nuit par cette personne qui, au passage, sur cette ancienne pool immuable, sur cette ancienne smart contract immuable, a réussi à dérober 10 millions de dollars.
Voilà pour cet autre hack et l'instant hack de BFM Business et des pros des cryptos. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Non, on va retrouver le soleil et le soleil du Salvador. Le Salvador fait un pas de plus intéressant dans l'univers du Web3 et des cryptos. Le Salvador a octroyé, là, ces derniers jours, une licence à un acteur crypto bien connu, Clair. Est-ce un pas de plus significatif que choisit de faire ce pays?
Oui, alors le Salvador avait promulgué une loi en début d'année spécifique à l'émission d'actifs numériques. Donc effectivement, c'est une licence qui s'inscrit dans le cadre de cette loi. Donc rien de très surprenant dans le fait aussi que des acteurs essayent d'aller s'implanter au Salvador, qui est un pays très connu pour sa politique pro-crypto, particulièrement pro-Bitcoin, mais plus généralement très favorable à l'industrie crypto. Et donc là, on parle d'un acteur qui s'appelle Bitfinex, qui est une plateforme d'échange bien connue dans le monde crypto, qui est une plateforme d'échange assez ancienne, hein, qui existe depuis 2012, même si elle avait un positionnement un peu plus particulier à l'époque. Et elle est connue parce qu'elle est très liée au stablecoin USDT, Tether, ouais, qui est l'un des plus gros stablecoins de marché, pour ne pas dire le plus gros, voilà, qui est un stablecoin indexé sur le dollar. Et il se trouve que Tether, donc l'émetteur de ce stablecoin, et Bitfinex partagent le même actionnaire, la société Ifinex. Donc Bitfinex est très étroitement lié à ce stablecoin. Alors c'est une plateforme qui a quand même une histoire un peu compliquée, parce qu'elle a été victime d'un certain nombre de hacks et d'incidents techniques pendant son histoire. Donc elle a une réputation qui n'est pas, je dirais, toute lisse et toute simple. Elle a aussi un rapport un peu compliqué avec les régulateurs, avec les banques. Et donc là, ce qui se passe, c'est que cette plateforme arrive au Salvador et a créé une entité qui s'appelle Bitfinex Securities El Salvador. Et donc, c'est cette entité qui a obtenu sa licence. Et là, l'enjeu pour Bitfinex, c'est de se diversifier et d'aller tokeniser des actifs du monde réel. Donc, c'est de sortir un peu de la pure crypto-monnaie, mais d'aller vraiment tokeniser des actions, des obligations, etc. Donc, c'est une opération de diversification qui est assez classique quand on regarde les politiques des autres plateformes d'échange. Elles sont toutes plus ou moins en train de faire la même chose. C'est, on va dire, une bonne nouvelle pour l'industrie, pour le Salvador en général, mais pour l'instant, on est au niveau des annonces. Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est ce que cette plateforme va réellement faire avec cette licence.
Effectivement, ça va se jouer au Salvador. On va regarder ça d'assez près. Les pros des cryptos, la machine à condenser le temps de BFM Business. Une semaine de crypto en 20 minutes à peine. Owen, Elon Musk. Il va bien d'ailleurs, Elon Musk, Owen. Enfin, en tout cas, on le suit à travers sa stratégie vis-à-vis de Twitter. L'écosystème le suit de très près, puisqu'il continue de vouloir changer l'image de Twitter, la faire basculer vers l'image d'une entreprise, quoi, de services financiers plutôt que d'une entreprise de réseaux sociaux.
Très clairement, il est en train de financiariser Twitter. Il vient d'annoncer un nouveau partenariat avec eToro qui permettrait, depuis la plateforme Twitter, d'interagir avec des actions, mais également avec des crypto-monnaies. Alors, que l'on apprécie le fait de financiariser Twitter ou non, que l'on apprécie le choix du partenaire eToro ou non, on se rend quand même compte qu'Elon Musk, du coup, continue sa quête et son objectif, faire de l'oiseau bleu une machine rentable. En l'occurrence, eToro sont appréciés par certains, beaucoup moins par d'autres, mais ont la réputation de payer grassement leurs apporteurs. Et pour le coup, cette plateforme aux États-Unis et même dans le monde en général a pris une très très grosse place et est devenue l'un des gros fournisseurs de produits financiers en tout type à travers le monde. Il est donc cohérent dans l'objectif, et on en a entendu parler, que ce soit sur la suppression de postes, que ce soit sur l'optimisation de la plateforme, que ce soit sur le Twitter Blue pour générer des revenus récurrents, Elon Musk est en train de faire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la méthode de Twitter, une boîte qui va finir par être rentable à suivre. En tout cas, c'était le pari qu'il s'était donné en rachetant une structure.
À suivre effectivement, à suivre aussi les décisions des régulateurs aux États-Unis, notamment la résolution du procès de Ripple, c'est ça, face à la SEC ? Owen ?
Oui. Alors, pour être totalement franc, je sais qu'il y a un positionnement de Ripple sur la SEC. Je ne serais pas capable de rentrer suffisamment dans les détails pour prendre une position là-dessus, mais je sais que c'est très regardé pour un seul point stratégique. On le sait, les États-Unis ont pris la décision de requalifier un grand nombre de crypto-monnaies en termes de securities. La particularité de Ripple, c'est que c'est l'un des premiers à avoir eu ce problème avec la Security Exchange Commission. C'est très clairement le proof of concept de la SEC sur les crypto-monnaies, et cette position est donc à double tranchant, parce que premièrement, elle va donner l'avenir de Ripple, et elle va voir si Ripple va avoir une très grande amende, et ça va affecter, comme ça affecte depuis quelques années, parce que c'est une discussion ouverte depuis plusieurs mois, la position de Ripple et son prix sur le marché, mais également ça va donner le tempo à toutes les autres crypto-monnaies, et on le sait très bien, on a également Ether et on a également toutes les autres crypto-monnaies qui sont en proof of stake. Ça va donc envoyer un message très fort, et pour moi ce procès, c'est plus qu'un proof of concept finalement, va être la définition de l'interprétation légale de la nouvelle position des États-Unis vis-à-vis des crypto-monnaies et de cette fameuse qualification en tant que sécurité.
Ça fera sans doute jurisprudence, ce sera à suivre de très très après. Puis FTX, alors on a eu cette semaine le premier rapport sur la gestion d'FTX, il est sorti ce premier rapport et il confirme d'ailleurs l'amateurisme et parfois les très mauvaises intentions des anciens dirigeants d'FTX. Mais c'est pas de ça qu'on va parler là, on va parler de la possible réouverture à venir pour les investisseurs, la possible réouverture à venir d'FTX, c'est ça Owen ?
Alors, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est assez fou. On en avait déjà entendu parler. Hein. On sait qu'FTX est entre les mains du curateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris possession de la direction d'FTX, hein, le John J. Ray III, et qui est en train de liquider un maximum de choses, de vérifier la liquidité de l'entreprise, donc d'essayer de récupérer un maximum de liquidité afin de pouvoir rembourser les clients, les utilisateurs, qui, eux, ont vu leurs fonds bloqués par la plateforme. On parle d'un peu plus de 10 milliards de dettes, et ils annoncent avoir déjà pu récupérer l'équivalent de 7,3 milliards de dollars d'actifs, entre guillemets, liquides. Que ce soit certaines de leurs sociétés, que ce soit des trésoreries, des positions qui sont capables de liquider assez rapidement pour obtenir du cash, et donc, in fine, d'honorer la dette qu'ils ont envers leurs utilisateurs. Mais ça s'arrête pas là. Ils en avaient déjà fait rapidement allusion, mais là, on parle d'une confirmation de cette position. Il se pourrait qu'au second trimestre 2023, les dirigeants actuels, donc le curateur de la plateforme FTX, prennent la position de relancer l'exchange. Premièrement, ça revaloriserait leurs jetons et ça leur apporterait de la liquidité. Deuxièmement, on le sait très bien, la plateforme FTX était très utilisée et très appréciée pour ses outils. En effet, il y a un défaut de confiance. En effet, on dit que la confiance, ça se brise, ça ne se répare pas. Mais pour le coup, les outils étaient rentables et fonctionnaient quand il n'y avait pas de problème, quand on désirait retirer son solde. Et donc, l'objectif serait de maintenir une certaine valorisation à cette structure. Et ils ont même évoqué jusqu'à potentiellement proposer du capital à certains utilisateurs qui ne pourraient naturellement pas retirer tout leur solde, puisque seulement 73 à 75% de la dette, d'accord, entre guillemets, d'FTX envers ses utilisateurs aurait été recouverte. C'est donc une potentielle qui fait beaucoup de bruit. C'est donc un choix potentiel qui fait beaucoup de bruit, qui déplaît à beaucoup de monde. Il y a même certains bruits de couloir comme quoi, quand ils ont essayé d'obtenir de la liquidité, ils ont eu des problèmes dans la blockchain et ils ont eu des liquidations parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'écosystème crypto. Bon. Et donc, ça fait rire certains de savoir qu'ils pourraient relancer l'exchange. En tout cas, ça semble, pour John J. Ray III, être une option potentielle qui permettrait à FTX de très rapidement revenir sur le terrain et potentiellement proposer de la liquidité à ses clients.
Incroyable. Bon, on fera peut-être changer la marque quand même, je ne sais pas.
Oui, c'est ça, mais ça paraît fou. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment récupérer des utilisateurs, des investisseurs, il faut changer la marque et surtout il faut communiquer sur un changement complet d'équipe parce qu'il y a une telle réputation sur cette entreprise que ça semble compliqué.
Faire peau neuve, vraiment. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, Meria et sa chaîne YouTube Asher. Bonne fin de journée. Owen, merci Claire d'être passé sur le plateau de BFM Business, experte crypto indépendante. Les cryptos qui vont bien, hein, 30 560 $ en ce moment le Bitcoin. Les marchés actions aussi qui vont bien, nouveau record absolu pour le CAC, 7 516 points, grâce entre autres au secteur du luxe. On vous propose d'ailleurs cet article sur notre site BFM Bourse. Oui, BFM Bourse, c'est la radio, la télé, l'appli, et puis notre site aussi, 24-24. L'émission, bien sûr, a lieu de 15h à 18h, mais BFM Bourse, c'est 24-24 sur notre site, et on vous propose cet article sur LVMH et Hermès. À l'image d'LVMH, le cellier de luxe Hermès publie des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, et Hermès au zénith, non loin du seuil des 2000 euros en bourse. Article consultable, bien évidemment. On se retrouve dans un instant également pour continuer d'en parler. À tout de suite.